En matière de cosmologie, les mystères restent nombreux. La face cachée de l'univers, c'est un sujet qui passionne les astrophysiciens du monde entier avec des objets énigmatiques qui posent questions comme les trous noirs, la matière ou l'énergie noire. Et c'est cet univers invisible qui est au cœur aujourd'hui de notre dossier avec l'astrophysicien David Elbaz qui publie un livre sur ce qu'il nomme le triolet de notre ignorance. J'attends vos messages dès maintenant sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, le poisson zèbre, un modèle animal qui n'en finit pas visiblement de séduire les chercheurs.
Oui, avec encore un exemple dans l'actualité, ce tout petit poisson est capable de réparer sa moelle épinière en quelques jours. Une découverte et un espoir que nous commentons avec le biologiste Jean-Stéphane Joly.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy qui s'intéresse cette semaine aux cris des joueurs de tennis. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour David Elbaz.
Bonjour Mathieu.
À la recherche de l'univers invisible, ce livre chez Odile Jacob, est-ce que l'univers invisible, c'est un petit peu la façon de ce que nous connaissons aujourd'hui de l'univers?
Tout à fait. Effectivement, dans ce terme d'invisible, il y a vraiment le côté obscur de l'univers qui se cache. Non seulement la partie qu'on ne peut pas voir, qui ne produit pas de lumière visible, mais aussi une partie qui ne produit pas de lumière, et plus loin encore, une partie qui dépasse les théories actuelles.
Ouais, donc c'est la part pour l'instant inaccessible de la connaissance?
Oui, c'est une part qui va nous pousser à aller au-delà des théories actuelles, ouais, et qui vient relancer le grand débat entre les théories de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. On ne peut plus reculer, ouais, face au besoin d'unifier les deux infinis.
C'est ça, on en parle avec vous, c'est absolument passionnant pour ce grand voyage dans l'univers et dans ces zones d'ombre, avec donc les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Et le poisson zèbre est aujourd'hui à la une de la science. On ne compte plus les applications et les découvertes faites grâce à ce petit poisson transparent pour l'ensemble de son œuvre scientifique. Et on en parle avec vous, Jean-Stéphane Joly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes chef de l'équipe neuropsy de Gif-sur-Yvette. Alors pourquoi est-ce que ce petit poisson zèbre est autant plébiscité aujourd'hui par les biologistes dans presque tous les domaines de recherche?
Bah, il a pas mal de qualités, ce petit poisson déjà. Il a des propriétés exceptionnelles, comme celle de régénérer, on va en parler aujourd'hui.
Oui.
Mais aussi, il est de taille limitée et donc très transparent. Et on voit au travers, on peut faire de très jolies images en microscopie.
Alors là, dans cette publication parue vendredi dans Science, c'est les chercheurs qui montrent que ce poisson est capable de nager quelques jours seulement après une rupture de sa moelle épinière. Ses capacités régénératrices, c'est vraiment ça qui intéresse la recherche.
Voilà, là, c'est ce que étudient ces chercheurs. Là, c'est l'équipe de Ken Post de l'université Duke qui a frappé un grand coup encore. Ouais. Ils nous avaient habitués à des beaux articles sur le cœur, mais là, c'est sur la moelle épinière. Et donc, grosse différence avec nous. Si on coupe la moelle épinière chez nous, là, ça fait quelque chose qui ne repousse absolument pas, on le sait, c'est dramatique. Ça fait ce qu'on appelle une cicatrice gliale dans le terme scientifique, une espèce de chewing-gum. Et les chercheurs pensaient que ce chewing-gum était vraiment un des problèmes qui empêche la régénération chez nous. Et là, dans cet article, ils trouvent que le poisson zèbre, lui, ne fait pas ce chewing-gum. Et en partie, sans doute, à cause d'un facteur particulier sécrété. Donc évidemment, c'est une nouvelle voie. Et avec ce petit poisson, on étudie la vie, on étudie en recherche fondamentale les mécanismes et on espère pouvoir les réactiver chez l'homme.
Mais il s'auto-régénère tout seul?
Oui, alors c'est exceptionnel. Plus on s'éloigne de l'homme, plus les animaux régénèrent. Vous connaissez peut-être les étoiles de mer, elles régénèrent leurs bras. Il y a des animaux qui régénèrent quasiment avec quelques cellules un corps entier, des animaux marins. Là, on est moins loin de l'homme. On a un vertébré avec un cœur, un cerveau bien similaire au nôtre. Mais il a gardé la possibilité de reboucher tous les trous de son cerveau éventuellement. Si on coupe un morceau de cœur, le cœur repousse. Si on coupe les nageoires, tout repousse. Donc des régénérations bien supérieures à nous. C'est sans doute lié à la croissance de ce poisson au fil de la vie qui continue. Et il a encore, ce petit poisson, des cellules extraordinaires là qu'on appelle les cellules souches à l'âge adulte, qui lui permettent sans doute de faire cette régénération.
Et comment se servir de ces facteurs dont vous parlez là pour peut-être éviter que nous aussi on fasse ce chewing-gum dans
Parce que nous aussi on en a des cellules souches, il n'y a pas que le poisson zèbre quand même.
Bah alors les cellules souches elles dorment chez nous sans doute ou on les perd peut-être au cours de la vie parce qu'on pousse plus beaucoup là au bout d'un moment là au bout de la puberté. Donc voilà, l'espoir est là pour la suite et on doit ajouter que le poisson zèbre n'est que l'impulsion primaire. Il va falloir aller regarder chez des modèles mammifères, le rat, la souris, et puis peut-être le primate, mais utiliser ces molécules et voir si elles favorisent la repousse de la moelle épinière. C'est l'étape suivante, et puis bien sûr, après, dans longtemps, on pense à la thérapie.
Alors, il y a aussi le poisson zèbre comme modèle animal de laboratoire. Est-ce que ça peut être le suppléant des rats ou des souris de laboratoire ?
Alors, suppléant, non, c'est complémentaire. C'est plus petit, c'est plus transparent, on voit des choses, on voit des cellules bouger, on peut faire des images en trois dimensions à grande échelle. C'est ce qu'on fait dans notre infrastructure d'avenir, la TFA. Et donc, ça, c'est très complémentaire. On va regarder certaines choses et on va pouvoir les reconfirmer chez les mammifères. Mais j'aime pas ni suppléant ni alternatif, c'est complémentaire. On est tous dans la même direction pour comprendre la vie et trouver des nouvelles voies de thérapie.
Et pour ce qui s'agit de tester des molécules, le modèle est bon quand même ?
Alors voilà, on va tester des molécules, on va les découvrir. On va les découvrir surtout là. C'est pas la première fois qu'il y a eu quelque chose de très joli sur le cœur et qui est déjà en essai thérapeutique chez l'homme. Qui permettait la dédifférenciation de cellules cardiaques. Et voilà, c'est les deux directions. On peut soit trouver des nouvelles molécules, soit aller dans les boîtes de pétri, utiliser ce qu'on a découvert, ce qu'on comprend chez le poisson, et faire différencier ces cellules et remettre les cellules, peut-être. C'est les deux grandes voies de médecine régénérative.
Ouais. Jean-Stéphane Joly, vous êtes un des pionniers du poisson zèbre en France. Vous étiez le premier à arriver avec ce poisson dans notre pays au début des années 90. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cet animal ? Comment vous l'avez repéré d'abord ?
Alors, c'est assez symptomatique de la passion pour la recherche fondamentale. J'étais très intéressé par travailler sur les poissons en soi et j'ai eu la chance qu'à ce moment-là existe aux États-Unis donc des groupes qui lançaient la biologie du développement à l'époque. Et alors là, c'est la découverte d'un œuf totalement transparent, d'une beauté incroyable, et la passion qui démarre.
On reste accroché pour
25 ans.
Ben vous aussi, vous nous accrochez dans ce que vous nous dites.
Est-ce qu'il y a encore des choses découvertes aujourd'hui, on en parlait de cette étude, mais qui vous fascinent sur le poisson zèbre après 25 ans ?
De plus en plus. Après 25 ans, on a aussi bien sur le plan fondamental une diversification incroyable. Des applications, maintenant c'est plus seulement la biologie du développement, c'est la cancérologie, c'est la médecine régénérative. Et puis technologiquement, c'est fascinant aussi, on avait des techniques qui sont apparues, vous connaissez dans le grand public la PCR sans doute.
La modification génétique, les
molécules fluorescentes. Là apparaît en ce moment les molécules qui coupent l'ADN, qui s'appellent les CRISPR. Et qui sont des outils dont on n'aurait pas osé rêver en recherche.
C'est aussi pour ça que le poisson est intéressant, c'est pour faire de la modification génétique.
Voilà, on va faire de la modification génétique facilement, les élevages sont moins chers, on les met à relativement haute densité. Et à l'âge jeune, c'est très très simple d'utiliser ces poissons parce que ils sont tout petits, très transparents et donc des coûts moindres, c'est l'idée.
On comprend qu'il y a énormément de promesses autour de ce poisson zèbre, mais les promesses, c'est aussi de la patience.
Voilà, la recherche, c'est de la patience. C'est sûrement pas demain matin. C'est 10 à 15 ans de confirmation chez les modèles animaux avant de passer chez l'homme. Il faut savoir donner du temps entre la recherche fondamentale, qui est celle qui est indispensable et qui donne le top départ de tout. Et aujourd'hui encore, on ne comprend rien aujourd'hui encore. La recherche fondamentale est plus que jamais utile.
On entend votre message, Petit message politique aussi pour tous ceux qui, comme vous, évidemment, consacrent du temps et qui un jour d'ailleurs deviennent prix Nobel, parce qu'on n'a pas de grands chercheurs sans justement cette recherche fondamentale que vous décrivez. Merci infiniment, Jean-Stéphane Joly. C'est passionnant ce que vous venez de nous raconter et on a envie d'en savoir plus et je suis sûr qu'on va y consacrer plus de temps prochainement.
Axel, une émission alors.
Merci à vous.
On y va. Le rendez-vous est pris. écrit quasiment. Merci beaucoup à vous. Merci. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la ville de New Delhi qui suffoque dans un brouillard de pollution après 8 jours d'intense pollution justement et de manifestations citoyennes, eh bien les autorités de la capitale indienne ont déclaré l'arrêt temporaire des chantiers d'une centrale à charbon. Au cœur de la ville, la concentration en particules fines a dépassé la semaine dernière les 1200 microgrammes par mètre cube d'air, soit 120 fois plus que le plafond maximal autorisé par l'OMS. Le chef du gouvernement indien a comparé vendredi dernier les rues de New Delhi à des chambres à gaz. Plusieurs additifs alimentaires communs en lien avec les cancers du côlon chez la souris, ce sont les émulsifiants qui sont en ligne de mire cette fois-ci dans une étude réalisée par les Américains. Ces molécules ajoutées aux produits préparés pour leur donner plus de consistance sont aussi responsables de changements drastiques dans la composition du microbiote intestinal des rongeurs, le rendant plus sensible aux inflammations, un terrain favorable donc à l'apparition de cancers du côlon. Et puis enfin, un papier réutilisable presque 50 fois vient de voir le jour en Chine. L'écran et les tablettes ont beau séduire de plus en plus les lecteurs, et bien le papier reste très utilisé au travail et dans l'affichage publicitaire. Des chercheurs chinois viennent de mettre au point une fibre de papier sensible aux rayons UV sur laquelle on peut imprimer plusieurs dizaines de fois après une procédure d'effacement simple. Pour l'instant, l'impression est monochrome et se fait en bleu sur blanc, mais ils espèrent bien aboutir à une version couleur de leur invention qui pourrait économiser beaucoup d'arbres. Allez, l'invisibilité de l'univers, c'est notre sujet dans un instant avec l'astrophysicien David Elbaz, qui est l'invité de La Tête au Carré. The Last Shadow Puppets.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
David Elbaz, vous êtes notre invité donc cet après-midi à l'occasion de la sortie de votre livre À la recherche de l'univers invisible qui sort chez Odile Jacob. Que savons-nous justement de l'univers invisible? On parle de choses comme la matière noire ou l'énergie noire dont on ne sait pas d'ailleurs si elles existent vraiment. Et pourtant on bâtit des théories sur leur existence. Parce qu'on a besoin qu'elles existent au fond, c'est ça l'idée.
Oui, tout à fait, on a besoin qu'elles existent pour réconcilier l'univers observé avec nos théories.
Ouais. Et c'est toute la mécanique au fond de l'univers qui ne peut fonctionner que si on introduit des notions comme la matière noire ou l'énergie noire.
Alors, vous faites bien de dire la mécanique, parce qu'en réalité, la partie invisible de l'univers, on a commencé à l'explorer depuis assez longtemps. Dès qu'on a commencé à voir qu'il existait une part invisible dans des couleurs qu'on ne pouvait pas voir à l'œil.
Ça a commencé quand d'ailleurs?
Alors, en fait, quand la découverte de l'invisible, on peut même dater précisément la première fois où on a découvert l'invisible, c'était le mardi 11 février 1800, lorsque William Herschel a découvert l'infrarouge.
C'est très précis.
Ça devait être vers midi d'ailleurs, parce que c'était au moment où la lumière du soleil était plus intense.
Vous avez une précision redoutable.
midi et quart. Et avec un prisme, il a décomposé la lumière blanche du soleil en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il a mis des petits thermomètres à chacune, devant chacune des couleurs. Et puis, il s'est rendu compte qu'un thermomètre placé à côté du rouge chauffait. Il a pensé à une lumière calorifique, un rayon calorifique de la lumière invisible, l'infrarouge. Alors, pourquoi c'est intéressant? Et puis, un peu moins d'un siècle après, en 1895, c'est Wilhelm Röntgen qui découvre les rayons X. Ouais. Et lorsque sa femme met sa main dedans, elle voit son squelette, elle dit « j'ai vu ma propre mort ».
C'est ça, exactement. Mais petite parenthèse, ça doit être absolument vertigineux quand même de découvrir ce type de choses. Alors, quand tout d'un coup, on se dit « mais quel est l'horizon qui s'ouvre devant nous quand
même ?» Quand eux ont fait ces découvertes-là, ils n'ont pas imaginé une seule seconde qu'ils allaient faire une radiographie de l'univers qui allait révéler une part qu'on ne voit pas sur Terre. Ça s'est fait après, quand on a développé des nouveaux instruments, parce que l'atmosphère absorbe les rayons X ou les rayons infrarouges. Donc ça fait dans un deuxième temps. Souvent, quand on fait une découverte scientifique, c'est dans un second temps qu'on réalise les implications. Néanmoins, chacune de ces nouvelles couleurs qui ont ouvert une nouvelle fenêtre sur l'invisible ont révélé des nouvelles composantes. Par exemple, les étoiles semblent être isolées dans des espaces vides, et puis on s'est rendu compte qu'en réalité, les espaces qui semblaient les plus vides étaient ceux qui étaient les plus denses. Ed Barnard, par exemple, qui est un astrophotographe à la fin du 19e siècle, a pris des photos de trous dans la Voie lactée, et il a publié un article en disant « ce sont des trous », et le responsable du journal a dit « c'est impossible, puisqu'il faudrait que ces trous soient des tubes centrés sur nous, parce qu'on ne voit pas d'étoiles derrière ». Et donc, c'est, en réalité, on le sait aujourd'hui, en regardant dans l'infrarouge, on voit que dans ces trous, ce sont en fait des régions très compactes de gaz et de poussière, c'est là où naissent les étoiles les plus lumineuses. Et donc, cette histoire dont on parle dans ce livre...
Donc c'est quoi? Ce sont des pouponnières d'étoiles?
Exactement. Là où il y a le moins de lumière, c'est là où on trouve, en apparence, c'est là où on trouve les plus grandes sources de lumière, les étoiles qui font plus que 10 000 fois la lumière du soleil chacune. Et de fil en aiguille, en explorant l'univers invisible, on a à chaque fois découvert des nouvelles composantes, des trous noirs qui rayonnaient de la lumière paradoxalement parce qu'ils mangeaient de la lumière, de la matière intergalactique, de la matière interstellaire... Et puis aujourd'hui, c'est le mot dynamique que vous avez dit tout à l'heure qui me fait réagir, on se rend compte qu'on peut aller encore au-delà en étudiant non plus uniquement d'autres fenêtres sur l'univers, mais en étudiant la dynamique de l'univers, de ses étoiles, de ses galaxies. Et là, pour réconcilier cette dynamique avec nos théories, il faut commencer à repousser un peu les limites de la connaissance.
Et aller donc dans l'invisible pour pouvoir justement...
Aller dans cet autre invisible pour aller imaginer des composantes de l'univers qui sont invisibles parce qu'ils ne produisent pas de lumière.
Ouais. Alors, il y a plein de questions qui arrivent déjà pour vous, David Elbaz, sur franceinter.fr et sur le mot-clé attaque, sur les trous noirs en particulier. On va y arriver dans un instant. Vous écrivez quand même quelque chose d'assez troublant, c'est que depuis près de 70 ans maintenant, la part intelligible de l'univers, je vous cite, s'étiole comme peau de chagrin. C'est-à-dire que plus on avance et moins on comprend.
Alors, en fait...
C'est comme ça qu'il faut entendre votre phrase?
Non, en fait, c'est un peu paradoxal. Vous savez, quand on monte en haut d'une montagne, plus on monte haut et plus notre vision s'étend. Alors, est-ce que celui qui est en haut de la montagne et qui voit mieux que celui qui est en bas en sait moins? Non, il en sait plus, mais du coup, il sait à quel point il reste...
Il voit plus.
Il en voit plus.
Exactement.
Il sait ce que l'autre aura à explorer et il peut le quantifier. Et donc, en fait, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on quantifie de manière ultra précise le degré de notre ignorance.
Ouais.
Mais qui a toujours été là, alors qu'on a fait des progrès énormes.
Ouais. Et ça excite les astrophysiciens, du coup.
Je pense que ça devrait exciter tout le monde. Effectivement, en tant qu'astrophysicien, je suis particulièrement excité parce que j'ai l'impression qu'on vit une révolution en cours, qu'on est dans un moment où, à tout instant, quelque chose d'extraordinaire peut se passer. Mais je pense qu'on devrait tous se sentir concerné parce que c'est notre histoire. Finalement, cette dynamique, c'est aussi celle de l'univers et de nos origines.
Oui. Mais alors, vous posez quand même des questions vertigineuses. On va y arriver tout à l'heure. Mais la gravitation, par exemple.
Oui.
Bah, vous dites, c'est, peut-être que ça n'existe pas du tout.
Tout à fait. Hein? Alors, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est, par exemple, Gerhard Tofte, qui est un prix Nobel de physique, et qui a dit, mais attendez, ça fait des années qu'on cherche à réconcilier la théorie de la gravité avec les théories de l'infini petit. Ouais. Eh bien, peut-être que c'est parce qu'elle n'existe pas.
Voilà. Petite question, comme ça.
Tout simplement, petite réponse pour une grosse question.
Qui ne remet rien en cause du tout.
Pas du tout. Si ce n'est que quand on mange beaucoup un bon repas, eh bien, c'est pas grave, puisque la gravité n'existe pas.
Exactement. Comment on utilise, alors, justement, ces outils pour aller dans l'invisibilité? Alors, vous parlez de l'infrarouge, par exemple.
Oui. Alors, en fait.
Comment ça fonctionne, exactement?
Il faut développer des détecteurs avec des technologies tout à fait, qui repoussent les limites de la connaissance. Par exemple, les CCD. Qu'on a dans nos téléphones portables viennent de développements qui ont repoussé les limites de la technologie en astrophysique pour aller voir quelques particules de lumière aux confins de l'univers. Ouais. Donc déjà, les technologies qu'on utilise en astronomie ont des répercussions sur ce qu'on utilise tous les jours. Les détecteurs infrarouges doivent être même refroidis parce que nous sommes des sources de lumière infrarouge. Et donc, si on ne veut pas que la caméra du satellite se voit elle-même, il faut la refroidir près du zéro absolu. Mmh. Là, on commence à...
Le zéro absolu qui fait moins 273
degrés. Voilà. Donc, quand on parle, nous, de sources de chaleur dans l'univers, qui sont, par exemple, la poussière chauffée à 40 degrés Kelvin, rayonne. C'est-à-dire qu'elle est à moins 230 degrés Celsius.
Ouais. Donc, il fait un peu froid pour l'humain, évidemment. Alors, il y a ce triolet mystérieux dont vous parlez, je citais tout à l'heure. Donc, trou noir, matière noire, énergie noire. Tout c'est vraiment le triptyque aujourd'hui qui intéresse les astrophysiciens.
Oui, alors, chacun a son histoire. Ils peuvent être tous les trois déconnectés, mais ils peuvent être tous les trois connectés. Oui. Par exemple, certaines hypothèses proposent que la matière noire s'explique à partir de trous noirs, ainsi même que l'énergie noire. Oui. On va voir ce que c'est. Mais c'est des astres qui ont ce point commun de ne pas produire de lumière et qu'on peut les étudier à travers la dynamique des astres.
Alors, ce qui est fou quand même, c'est qu'on arrive à quantifier tout ça. C'est-à-dire qu'on n'en connaît pas, on n'a pas la preuve de l'existence. Ah, pas pour les trous noirs, parce que pour le coup, ça a changé. Oui. Depuis les ondes gravitationnelles, là, on a une preuve de l'existence vraiment des trous noirs. Mais la matière noire et l'énergie noire, on n'a aucune preuve pour l'instant. Oui. Et on arrive pour autant à la quantifier.
Tout à fait.
Ça, c'est quand même dingue.
Ben, en fait, on l'a fait depuis longtemps. Hein. La première fois où on l'a fait, c'était quand on a observé le mouvement de la planète Uranus. On s'est rendu compte qu'il ne s'expliquait pas de manière parfaitement en accord avec les observations, avec la loi de Newton, la loi de la gravité de Newton. Et il fallait soit modifier la loi de la gravité, ce qui a été proposé par certains, comme Airy, soit invoquer une forme de matière noire, un astre qu'on ne voyait pas et qui affectait son mouvement. Et puis on l'a découvert, c'était la planète Neptune. Après, en observant bien, on s'est rendu compte qu'elle était observable, elle fait la lumière. Mais c'était la première fois où, par une dynamique, on découvrait de la matière noire. Une forme. Et donc, c'est la même logique qui a conduit, en étudiant le mouvement des étoiles qui tournent dans les galaxies, ou le mouvement des galaxies qui sont soudées entre elles par la gravité, à constater le fait suivant. C'est que le Soleil tourne à 220 km par seconde autour du centre de la Voie lactée. Or, quand on calcule la masse qui le maintient dans la Voie lactée, à partir de la lumière qui est rayonnée par cette masse, eh bien le Soleil devrait quitter la Voie lactée, il aurait dû s'échapper depuis longtemps. Il y a donc une masse invisible qui maintient le Soleil dans la Voie lactée, une composante de matière noire.
Oui. Mais alors, dans justement la quantification de cette matière noire ou de cette énergie noire, c'est-à-dire que ça prend une place terrible, parce que la matière visible, elle est très peu nombreuse.
Tout à fait.
C'est quoi, 5%?
5% du contenu énergétique de l'univers.
Ouais, c'est rien.
C'est rien du tout.
Et donc tout le reste, la matière noire et l'énergie noire c'est 68%, c'est ça à peu près, et la matière noire 27%. Hein. Mm-hmm. Voilà. Ben, c'est pas rien quand même, ça prend beaucoup de place.
Alors, et effectivement, c'est en proportion énorme. En tout cas, c'est les proportions auxquelles on doit faire appel si on veut garder les théories telles qu'elles sont et qu'on veut, disons, colmater les brèches de l'édifice scientifique avec ses composantes.
Ouais, mais c'est quoi? C'est de la rustine intellectuelle ou quoi?
Eh bien, c'est là où les débats commencent à s'échauffer. Certains de mes collègues pensent que c'est simplement une étape dans laquelle... ultérieurement, on découvrira une particule de matière noire et puis qu'on expliquera l'énergie noire par l'énergie du vide qui est prévue par la théorie de l'infiniment petit, le modèle standard de la physique des particules. D'autres disent, mais attendez, cette nouvelle particule, de toute façon, elle n'est pas dans nos théories, donc ça va modifier nos théories. Mmh. Et d'autres vont plus loin et disent, mais attendez, Vous savez, cette histoire du malade qui va voir le médecin, il lui dit « Docteur, j'ai mal partout ». Le médecin lui dit « Mais pardon, dites-moi pourquoi ? Il touche sa mâchoire, il a mal, il touche son bras, il a mal, il touche sa jambe, il a mal. » Le docteur lui dit « J'ai compris, vous avez le dos cassé ». Est-ce que c'est l'outil qu'on utilise, qui est la gravité avec laquelle on étudie la dynamique des astres, qu'il faut réviser ? Ou est-ce qu'il faut faire intervenir la matière noire ou l'énergie noire ? C'est un objectif des années à venir.
Les questions sont donc posées. Et il y a du boulot hein, pour les astrophysiciens. On vous retrouve dans un instant, David Elbaz, avec les messages des auditeurs. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Dissipé. Les masses mouvantes des dissipées, les masses mouvantes des tourneaux dans le matin pâle. Aujourd'hui avale, quelqu'un du pays avale, venu jusqu'au puits avale, dans le matin pâle. Avale au nom de la nation, la nation, la nation, la nation. Tomber tôt, tôt, on voit tomber son seau dans le matin pâle. Aujourd'hui avale, quelqu'un du pays avale, venu jusqu'au puits avale, on attend l'eau. Là-haut, avale.
Vous intéressez au trou noir ?
Comment ne pas être fasciné par la force la plus inexorable de l'univers ?
Ces longs tunnels obscurs vers nulle part.
Ou quelque part. C'est précisément cette alternative qu'il faut explorer.
Vous avez défié le pouvoir du trou noir par vos calculs antigravitationnels. C'est un grand exploit, docteur.
Croyez-vous ?
Oui. Je le crois.
Merci.
C'est un film qui s'appelle Le Trou Noir, tout simplement, David Elbaz. Vous vous souvenez peut-être de ce film sorti en 1979 de Gary Nelson avec Anthony Perkins, entre autres. Alors justement, les trous noirs, la matière noire, l'énergie noire, hein, c'est ce triolet mystérieux dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi ces objets ont en commun le noir ? Qu'est-ce que ça dit exactement d'eux ?
Alors le terme noir est utilisé pour à la fois dire qu'ils ne produisent pas de lumière, Et en même temps, quelque part, c'est un aveu des scientifiques pour dire qu'on n'est pas trop sûr de comprendre de quoi.
C'est ça, exactement. C'est pour l'instant l'explication de l'invisibilité et le mystère qui plane autour de ces objets. Jean-Pierre nous envoie ce message, il nous dit « Plutôt que d'imaginer énergie et matière invisible, quelqu'un a-t-il envisagé que notre univers pourrait se trouver à l'intérieur d'un autre issu d'un Big Bang précédent et en cours de contraction après la fin de son expansion ?»
Alors, l'idée que notre univers visible, observable, appartient à un univers beaucoup plus grand, est presque accepté par tout le monde. Le simple fait que, par exemple, la courbure de l'univers soit plate nous suggère que l'univers a été énormément gonflé, qu'il est beaucoup plus grand, ou peut-être même qu'il y a plusieurs Big Bang dans un espèce de méta-univers.
Ouais.
La question de l'existence de l'énergie noire en rapport avec cette idée-là doit quand même être remise en perspective. Juste deux mots sur la raison pour laquelle on invoque une forme d'énergie nouvelle, c'est parce que si je donne un coup de pied dans un ensemble de ballons, par exemple, ils vont partir avec une certaine vitesse. Et puis, si les gens les jettent vers le ciel, ils vont finir par retomber. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que le Big Bang, c'est un énorme coup de pied dans la matière qui a provoqué l'expansion de l'univers. Et au lieu de retomber, les ballons sont en train d'accélérer et montent de plus en plus vite.
Ouais.
Et donc, il se passe quelque chose là qui fait appel à une autre forme d'énergie, un petit moteur. Et donc, soit on attribue le moteur à la matière, soit on l'attribue à l'espace lui-même, soit on l'attribue au vide quantique de la théorie. Donc selon la composante à laquelle on l'attribue, on a des théories différentes. Mais le simple événement du Big Bang ne suffit pas à expliquer cette accélération.
Pourtant, néanmoins, on parle du Big Bang, on ne parle pas des Big Bang.
Alors si, en fait, on parle effectivement du Big Bang, mais ce n'est pas vraiment une théorie, le Big Bang, mais pour expliquer ce qu'on appelle l'inflation, qui est ce qu'on pense être une phase de croissance très très rapide
d'expansion de
l'univers au tout début de son histoire, on fait appel à une théorie dans laquelle cet événement se serait produit plusieurs fois dans plusieurs endroits. La théorie de l'inflation chaotique de André Linde, par exemple, c'est ça. Alors, donc, ça peut s'être produit plusieurs fois. Néanmoins, l'énergie qui a accéléré l'expansion de l'univers, depuis à peu près 6 milliards d'années, l'univers accélère son expansion. Là, il faut faire appel à quelque chose de nouveau.
Mais est-ce qu'on en est sûr aussi de cette expansion, alors, finalement ? Parce que vous dites que c'est peut-être un problème de vision, au fond. Hein.
Alors,
selon l'endroit où on se place, on voit une expansion. Mais peut-être que si on change de place, on ne voit plus du tout la même chose.
Alors, effectivement, ce que je dis
une des choses les plus troublantes au fond du livre.
Hein,
ça remet tout en cause, au fond. Hein.
Alors, ce que je dis dans le livre, effectivement, c'est qu'on peut considérer les différentes options qui sont envisagées aujourd'hui dans cette révolution comme plusieurs formes d'illusions possibles. La matière noire, l'énergie noire, c'est une forme d'illusion dans le sens où on aurait l'illusion qu'il faut changer nos lois. En réalité, c'est des composantes invisibles. Là, c'est le principe copernicien, celui qui dit qu'on n'occupe pas une place particulière dans l'univers qui pourrait être mis en question. Si nous habitions une bulle dans l'univers où le nombre de galaxies était un petit peu plus faible qu'au-delà de cette bulle, la gravité au-delà de la bulle serait un peu plus grande et donc on aurait une espèce d'attraction vers l'extérieur qui aurait cet effet d'accélération. Ça a été une des hypothèses et on appelle cette hypothèse l'hypothèse de la Hubble bubble. Hubble a découvert l'expansion de l'univers et la bulle de Hubble. Néanmoins, les observations actuelles permettent de repousser la limite de cette bulle aux confins de l'univers observable. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est pas l'hypothèse privilégiée, mais on explore ces hypothèses.
Jean-Paul nous dit, Einstein n'a jamais cru en l'existence des trous noirs. Pourquoi ?
C'est vrai que c'est Karl Schwarzschild qui a imaginé, alors qu'il était au front pendant la guerre, qui a imaginé l'existence des trous noirs. Bon, d'abord, c'est des êtres extraordinaires, les trous noirs.
D'êtres extraordinaires.
Ah oui.
Vous allez jusque là.
Ils existent et donc ce sont des êtres existants.
Ah, c'est drôle.
J'ai pas dit des êtres vivants.
Non, mais quand même. Vous avez pas parlé d'objets, vous avez parlé d'êtres.
C'est vrai, ils font partie de notre histoire. Ouais. Finalement, on est devenu des compteurs. Non seulement on compte les galaxies, mais on compte l'histoire de l'univers. Ouais. Et donc on a des êtres, on a des acteurs. Et maintenant, on a ces acteurs un peu obscurs qui sont un peu les Dark Vador de notre histoire. Et donc les trous noirs. D'ailleurs, Einstein n'avait pas non plus cru à l'expansion de l'univers. C'est pas seulement les trous noirs. Les implications de cette théories ont été difficiles à accepter pour Einstein. C'est le maître qui lui a fait comprendre l'idée de l'expansion de l'univers.
Ouais.
Pour les trous noirs, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on plonge à l'intérieur d'un trou noir, on atteint au centre un point où l'énergie tend vers l'infini.
Mais on l'a jamais fait, ça encore, de plonger à l'intérieur d'un trou noir.
Alors, c'est une bonne question, parce que se pose aussi la question de savoir si l'univers tout entier n'est pas un trou noir.
Ah non, bon. Ouais. C'est ce que vous posez comme question, effectivement.
Ouais. Ouais. Alors, au sens, disons, strict du terme, on peut dire que ça, c'est peut-être pas nécessairement le cas, mais au sens où il existe une limite au-delà de laquelle aucune information ne pourra jamais nous arriver, comme pour un trou noir, ouais. Ce qu'on appelle l'horizon des événements, eh bien nous sommes à l'intérieur d'une frontière qui s'apparente à celle d'un trou noir et qui fait partie justement de la révolution scientifique en cours en ce moment.
Jean-Paul, toujours, est-ce qu'un trou noir est lié à la force de gravité si une étoile s'effondre sur elle-même ?
Alors si une étoile s'effondre sur elle-même, il faut qu'elle soit assez massive pour résister, pour vaincre la barrière coulombienne de la répulsion électrostatique. Et quand elle arrive à un certain seuil, elle va former un trou noir. Mmh. Et effectivement, les trous noirs stellaires pour arriver vont naître de l'effondrement d'une étoile. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe au centre des galaxies des trous noirs galactiques, qui sont des trous noirs supermassifs.
Mmh. Au centre de notre Voie lactée.
Au centre de notre Voie lactée.
Se trouve voilà. Un tel trou noir.
Eh bien, si nous plongions dans un de ces trous noirs, qu'est-ce qui nous arriverait?
Oui, on aimerait bien savoir.
Eh bien, ça serait pour ceux qui font à peu près 100 millions de masses solaires, l'équivalent de plonger dans une piscine. Et pour les autres, un peu plus grands, ça serait, on ne se rendrait pas compte. Il faut savoir que si l'atmosphère de la Terre qui nous environne, était prolongé jusqu'aux confins du système solaire, le système solaire serait un trou noir. Ouais. Donc un trou noir n'est pas un objet très dense, c'est un objet qui a dépassé un seuil de masse dans un certain rayon. Donc ce ne sont pas nécessairement des monstres, ce sont des êtres qui participent à notre existence.
Ouais, et pourtant, attention, parce que s'aventurer aux abords d'un trou noir, c'est dangereux quand même.
Pas nécessairement, justement. Les petits trous noirs vous spaghettifient, ils vous transforment en spaghettis. Ouais. Les plus gros trous noirs ne feront rien de vous. Mais par contre, au centre d'un trou noir, là, effectivement, la spaghettification est assurée.
Dans la série Stargate, en tout cas, on s'inquiétait beaucoup de l'arrivée au bord d'un trou noir.
Écoutez, la caméra répond peut-être encore aux ordres. Voyez si vous arrivez à obtenir une image plus large. Je crois que je sais pourquoi le Major Boyd a l'air terrorisé. Là. Regardez, isolez ce coin et agrandissez-le.
Pourquoi vous me montrez ça?
C'est un trou noir, mon général.
Qui vient apparemment de se former. P3W451 est une orbite jumelle d'une autre étoile. Leurs orbites se sont probablement rapprochées avec le temps.
Pourquoi ils ne se sont pas sauvés?
Ils ont essayé de le faire. Mais quand on se trouve trop près d'un trou noir...
Le temps ralentit.
Il a pourtant l'air d'être assez tranquille.
Vu d'ici, oui. Mais il ne faut pas oublier que le temps est relatif. En ce qui concerne les G10, il n'y a que quelques secondes de passé. Ils essaient toujours de sauver leur peau.
Qu'est-ce qui va se passer pour eux?
Eh bien, mon général, la dilatation du temps est le résultat d'une trop forte gravité directement proportionnelle à la proximité de...
Capitaine!
Leurs membres seront complètement broyés par l'accroissement de la pression.
Est-ce qu'on ne peut rien faire pour les sauver?
Il est trop tard, hélas.
C'est affreux, un trou noir, David Elbaz. Vous entendez bien ce qui se passe dans Stargate à
ah
l'instant.
Oui, mais parce que G10 s'approche de P3W, qui est un trou noir stellaire. Donc là, effectivement, une très grande densité, ils ont été spaghettifiés.
C'est ça. Sébastien nous dit, hormis les trous noirs, la matière et l'énergie noire, ne serait-elle pas le résultat d'une théorie incomplète, tout simplement?
Très très bonne question. C'est ce qu'on se pose aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'objectif du satellite Euclide qui va être lancé en 2020, que de tester cette question-là en explorant les déformations de l'espace-temps engendrées par la matière noire à différentes époques de l'histoire de l'univers et voir si il faut pas modifier un petit peu la gravité, ce qu'on appelle la théorie monde, Modified Newtonian Dynamics, ou bien ça c'est pour expliquer la matière noire, on fait cette théorie monde. Pour expliquer l'énergie noire, enfin cette expansion accélérée, on parle de gravité modifiée, c'est d'autres formes de modification de la gravité. Et puis, les grandes théories qui essayent d'unifier l'infiniment petit et l'infiniment grand, la théorie des cordes, la théorie de la gravité quantique à boucle, essayent aussi de trouver une clé à ce mystère. Mais pour l'instant, disons que l'idée de l'existence de la matière noire est celle qui colle le mieux avec toutes nos observations.
Voilà, et cette idée d'unification qui est aussi une des grandes quêtes, un des grands graals de la physique actuelle. Vous troublez beaucoup nos auditeurs en émettant l'hypothèse que la gravité ne puisse pas exister. Je vous transmettrai les messages dans un instant, David Elbaz, vous êtes notre invité.
Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le Michelibou. Suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose, plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'père, c'est si bon quand on s'père, sans espèce de repère qui nous repère même pas. Spam, c'est si bon quand on spam. D'être si bon ici. Bah, suis-je, le sais-tu? Suis-moi, ton sosie salut. Suis-moi, et si moi c'était toi? Suis-moi, et si on s'allie? Suis-moi, en sueur ou en suie? Suis-moi, de ci, de ce, de ci, là. S'peu, c'est si bon quand ça s'peut. Que qu'il peut plus, s'peut le mieux. Mieux que qui, mieux que quoi? Split, c'est si bon quand on split. De rire et que la pluie, pleure elle aussi de joie. Spal, c'est si bon quand on se parle. Si haut, ici, bas.
Suis-moi, c'est la voix de Camille sur France Inter. Dans La Tête au Carré, nous sommes avec David Elbaz à l'occasion de la sortie de ce livre à la recherche de l'univers invisible, matière noire, énergie noire, trop noire. C'est chez Odile Jacob. Et vous nous troublez beaucoup, David Elbaz, parce que vous nous dites que peut-être qu'on est en train de se tromper complètement avec ces grands concepts qui ont fondé pour l'instant justement les grandes théories de la physique. Et vous cherchez les biais justement pour imaginer ce qui pourrait être valable encore aujourd'hui. Enfin, il y a plein de choses à imaginer au fond.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de voies possibles. Alors, je voudrais revenir sur cette question de savoir si la gravité...
Ah oui, Erwan, par exemple, qui nous dit « Comment la gravité peut ne pas exister? Je suis gravimétricien, ça remettra en cause mon travail. Pourtant, la gravimétrie fonctionne bel et bien. »
Tout à fait. En fait, c'est important de préciser ce qu'on veut dire par là. Imaginons un ballon gonflé d'air que l'on chauffe. Le ballon, sous l'effet de la température, va gonfler, va subir une pression plus forte. Alors, est-ce que cette pression liée à la température de l'air qui est dans le ballon doit être considérée comme une nouvelle force? Est-ce que c'est une interaction fondamentale? Non, on dit que c'est une propriété thermodynamique qui émerge du fait qu'un ensemble de particules bouge.
C'est l'expansion de l'univers là, que vous nous décrivez?
Non,
ou pas,
hein, ce serait que l'idée que la gravité, dans ces nouvelles théories, serait une propriété elle aussi émergente à notre échelle. Et elle ne serait pas une interaction fondamentale qui existerait à l'échelle des particules élémentaires. En d'autres termes, cela voudrait dire que si on prenait une seule particule, eh bien on ne pourrait pas identifier la gravité à son échelle, on ne peut l'identifier qu'à grande échelle. Vous savez que la gravité...
Ça ne fonctionne pas à l'échelle microscopique,
n'a jamais été testée en dessous du millimètre, du dixième de millimètre.
Ouais, donc c'est un problème quand même.
Alors ça c'est un problème dans le
et
sens...
Et ça peut remettre entièrement en cause son existence?
Disons qu'on en arrive à imaginer la possibilité d'expliquer la gravité comme une propriété, entre guillemets, thermodynamique, c'est-à-dire une propriété d'un ensemble de particules, depuis une révolution scientifique qui a commencé dans les années 70 lorsqu'on a étudié la surface des trous noirs. Et où on s'est rendu compte qu'en décrivant la surface des trous noirs, en prenant en compte à la fois la gravité et la mécanique quantique, on pouvait commencer à unifier ces deux théories de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Ça, ça a été une première étape. C'était les travaux de Wheeler, Bekenstein et Hawking qui a conduit à l'évaporation et l'explosion des trous noirs. Et puis plus récemment, à la fin des années 90, début des années 90, fin des années 90, donc 20 ans après, c'est là où la révolution s'est produite, où on s'est rendu compte qu'on pouvait traiter de la même manière la gravité comme une propriété thermodynamique, sans trou noir, avec d'autres formes d'horizons. Et c'est là où on est entré dans cette quatrième voie que j'appelle une forme de la Maya, illusion. Une forme d'illusion ouais. possible, ça serait que la gravité serait, dans cette hypothèse, une propriété émergente ouais. de la nature.
Mais pourquoi ça ne fonctionne pas à l'échelle quantique alors ?
Alors, la raison pour laquelle on ne peut pas la voir aux petites échelles, c'est que la force électrostatique, par exemple, de répulsion entre deux électrons est 10 puissance 36 fois plus grande, donc c'est très difficile. Pourquoi elle n'existerait pas à petite échelle ? Bah, peut-être tout simplement parce qu'elle serait juste une expression d'une propriété macroscopique. Tout est possible à partir du moment où on n'a pas été validé ça. Alors si c'était vrai, on n'aurait plus besoin d'unifier les deux théories de l'infiniment grand et l'infiniment petit, puisqu'elles ne seraient pas au même titre. Ouais. Alors une autre des conséquences de ça, qui a été proposée par Gerhard Toft, c'est de dire que l'univers tout entier serait un hologramme à deux dimensions, et auquel cas ce serait pas seulement la gravité qui serait émergente, mais que l'espace-temps serait affecté. Vous savez que chez Einstein, la gravité, c'est une propriété de l'espace-temps. Ouais. Si vous touchez à la gravité, vous touchez aux notions d'espace-temps.
Et on fait quoi de la troisième dimension alors ?
Eh bien, elle n'existerait pas.
C'est ça, vous nous dites ça comme ça en passant ?
Oui.
À 14h50, un mardi après-midi.
Vous êtes un être beaucoup plus plat que vous ne pensez.
Mais ça, c'est pas. Je n'en doutais pas, David Elbaz. Merci pour cette vérité qui est absolument valable pour tous, d'ailleurs.
Hein, non, pas pour tous.
Alors, d'autres questions des auditeurs. Michel nous dit, si la gravité n'existe pas, qu'en serait-il des ondes gravitationnelles ? Alors, ça remet en cause aussi leur existence.
Alors, effectivement, le terme exister, la température existe, la pression existe. Donc, le terme exister, effectivement, n'est pas le bon terme, puisque elle existerait, la gravité, au même titre que le reste. Donc, les ondes gravitationnelles, bah, c'est une expression, justement, de la modification de l'espace-temps. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à la gravité, qu'on ne remet pas en question. Ce qu'on remet en question, c'est le fait que la gravité puisse être traitée, dans cette approche-là, comme la force électrique, par exemple, électromagnétique, avec un champ d'interaction, etc. C'est ça qui est remis en question. Il faut savoir que ces deux théories ont une tension depuis leur naissance. Vous allez au centre d'un trou noir, l'énergie tend vers l'infini. Vous allez au centre d'une particule élémentaire, l'énergie tend vers l'infini. Donc elles peuvent pas marcher. Donc il faudra quand même qu'on s'en sorte un jour ou l'autre.
Bon, mais c'est vertigineux quand même tout ça. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on peut remettre en question au fond aujourd'hui ?
C'est ça qui est
fantastique. Et qui serait lié à des illusions. Enfin, je veux dire, même conceptuellement, c'est complètement dingue.
Alors en fait, ça a été même pour moi vraiment un plaisir d'écrire ce livre parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 5 types d'illusions auxquelles on était confrontés, que ça s'appliquait non seulement à notre compréhension de ces 3 composantes sombres, mais à la recherche en général et même à la vie de tous les jours. Finalement, on peut utiliser cette grille de lecture un peu de façon plus générale et qui est une façon de constater finalement que eh bien entre ce qu'on est capable d'expliquer et ce qui reste à expliquer, il y a encore un très très long chemin.
Maxime nous dit qu'il y a certains physiciens qui proposent des théories qui expliquent les observations par une nouvelle approche de l'univers sans matière noire, sans énergie noire, mais qui rend compte par des simulations des observations telles que les galaxies spirales et l'accélération de l'expansion de l'univers. Alors cette théorie s'appelle modèle de Janus, alors c'est certains physiciens qui le proposent. Pourquoi justement les autres physiciens restent sourds aux nouvelles théories ?
Alors ça, c'est effectivement, c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais il y a un mythe comme quoi les scientifiques sont sourds aux nouvelles théories. Il faut savoir que c'est très long de valider une théorie et que il y a beaucoup de théories qui peuvent expliquer une même observable. Donc ce qu'on a tendance à favoriser, c'est la théorie qui explique la réalité observée avec le moins de paramètres libres possible. Si vous ajoutez des paramètres libres sans pour autant faire une prédiction qui soit différente du reste, alors on n'adopte pas cette théorie pour autant tout de suite. Mais il y a un très très grand nombre de théories, j'en évoque beaucoup dans mon livre, qui ne sont pas les théories dont on parle classiquement, mais qui sont considérées mais des théories complètement folles. Certains disent que l'univers n'aurait que 2 dimensions, d'autres qui disent qu'il y a l'univers à 20 dimensions. Vous savez que les gens au LHC, ou avec certaines particules du LHC, comptent leurs particules parce qu'ils se demandent s'il n'y en a pas qui partent dans d'autres dimensions. Donc on n'a pas besoin de la science-fiction.
C'est vrai, ouais. Et on en reçoit d'ailleurs, même ici à La Tête au Carré, de temps en temps, on reçoit des courriers avec des personnes qui nous proposent de nouvelles théories, très régulièrement.
Oui. Moi, j'en reçois régulièrement des gens qui me disent ça et qui me disent « Mais pourquoi vous ne prenez pas ma théorie au sérieux ?» Ce n'est pas qu'on ne prend pas cette théorie au sérieux, c'est qu'il faut un investissement énorme pour tester toutes ces possibilités.
Ouais. David Elbaz, très rapidement, notre réalisatrice Stéphanie Texier a très envie de connaître les 5 illusions dont vous parlez dans ce livre. Alors, on peut les énumérer très rapidement. Oui. La première de type uranienne, par exemple.
Voilà. Donc, la première, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait que vous croyez qu'il faut changer la loi de la gravité aux confins du système solaire parce qu'il y a Uranus, un mouvement qu'on n'explique pas, mais c'est une illusion, c'est simplement parce qu'il y a une composante sombre. La deuxième, c'est lorsque on a voulu appliquer, lorsque Le Verrier a voulu appliquer la même approche à la planète Mercure, il a inventé une nouvelle planète, Vulcain, et cette fois il est tombé sous le coup du deuxième type d'illusion, il a cru voir de la matière noire, et il fallait en réalité changer la théorie de la gravité.
C'est l'illusion mercurienne.
Voilà. La troisième, c'est le fait que, en prenant en compte notre mouvement, eh bien, on peut voir des choses comme le mouvement rétrograde de Mars qui part en arrière. Et si on ne prend pas en compte le fait qu'on tourne autour du Soleil, on a l'impression que Mars a un comportement erratique. En réalité, c'est notre propre dynamique. On parlait de la Hubble Bubble tout à l'heure. C'est une illusion du troisième type.
La quatrième illusion, vous en avez parlé, c'est la Maya cosmique, voilà, c'est ça?
C'est l'idée de gravité émergente. La gravité elle-même serait une illusion.
Et la cinquième, alors?
Alors, la cinquième est beaucoup plus subtile. C'est, ce que j'appelle celle-là, l'illusion narcissique, parce que, c'est le fait que, tout à l'heure, un auditeur a posé la question, mais y a-t-il plusieurs Big Bang, etc. Eh bien, effectivement, le choix qu'on a fait de raconter l'histoire de l'univers comme une histoire qui nous ressemble énormément, ressemble tellement à l'histoire d'un être humain qu'on peut se demander à quel point, lorsqu'on regarde l'univers, il n'y a pas une part de projection de nous-mêmes. C'est très difficile de se sortir de ça, surtout quand on sait que les théories actuelles évoquent un multivers.
Et les blessures narcissiques, l'homme en a connu d'autres.
Hein. Exactement.
Depuis Copernic jusqu'à Sigmund Freud.
Exactement. Hein.
Ça s'appelle À la recherche de l'univers invisible, matière noire, énergie noire, trou noir, David Elbaz. C'est chez Odile Jacob. Et l'animateur le plus plat des ondes vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.
À très bientôt.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous nous parlez de tennis.
Et oui Mathieu, parce que dans quelques jours commence à Londres le Masters qui réunira les meilleurs joueurs de la saison. Et le moment est venu de répondre scientifiquement à une obsédante question. Les braillards qui ont envahi les cours tirent-ils un avantage de leur grognement? Alors, rappelez-vous le bon vieux temps où non seulement les as de la raquette ne renversaient pas 10 pots de peinture sur leur tenue, mais où ils tapaient dans la balle sans éructer ni hurler. Alors aujourd'hui, les ahannements, les couinements et les cris donnent parfois l'impression qu'on assiste plus au doublage d'un film à caractère pornographique qu'à un match de tennis.
C'est vrai, c'est vrai.
Maria Sharapova, par exemple, a été enregistrée à plus de 100 décibels, un niveau sonore supérieur à celui d'une tondeuse à gazon à Wimbledon. C'en est au point qu'il y a quelques années, Martina Navratilova, ex numéro 1 mondial, déclara que grogner en frappant dans la balle, c'était tricher. En plus de gêner la concentration du joueur adverse, le bruit masquerait des informations sur la direction, la vitesse de la balle au sortir de la raquette, ainsi que l'effet qui lui est imprimé. Dans une étude publiée en 2010, deux chercheurs ont donc voulu traiter de manière scientifique ce problème crucial pour la bonne marche du monde.
Donc ça veut dire bien sûr qu'il y a eu une expérience, Pierre Barthélémy. Hein.
Exactement, Mathieu Vidard. Une expérience au cours de laquelle des cobayes installés devant un écran regardaient 384 séquences vidéo où un joueur professionnel avait pour mission d'expédier la balle à droite ou à gauche de la caméra. Les clips s'arrêtaient soit au moment de l'impact et les personnes testées devaient dire le plus vite possible où la balle allait atterrir. Et dans la moitié des cas, quand la raquette touchait la balle, on ajoutait un bruit parasite de 60 décibels, soit bien moins que les manifestations orgasmiques audibles à Roland-Garros.
Et alors, qu'est-ce que ça a donné, Pierre?
Et les résultats sont éloquents. Lorsque le bruit était présent, les participants à l'expérience répondaient systématiquement avec retard, 33 millisecondes en moyenne. Alors, vous allez me dire, c'est minime, ça n'a pas de conséquence sur l'échange, mais non. Si on considère que la balle voyage à 80 km/h, ce qui est plutôt lent par rapport aux performances des bûcherons du circuit, cela fait démarrer le joueur adverse avec un handicap de 73 cm.
Ah, quand même.
Et quand même. De plus, avec le bruit rajouté, les cobayes devinaient moins bien le côté vers lequel la balle allait se diriger. Les auteurs estiment que l'effet du grognement sur l'attention de l'adversaire est analogue à celui d'un coup de téléphone lorsqu'on conduit. On a beau regarder la route, on la voit moins bien en raison d'une interférence sensorielle. À quand le retrait de points pour les braillards des cours?
Eh ben, on attend peut-être de nouvelles règles. On retrouve en tout cas cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui même. Quoi d'autre au menu du supplément, Pierre?
Alors, cette semaine, le grand dossier est consacré aux nouveaux défis dans la prise en charge des grands prématurés à l'hôpital.
Merci Pierre Barthélémy, à mardi prochain. Fabrice Rouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Le programme d'affaires sensibles, s'il vous plaît.
L'enfance d'un chef. Nicolas Sarkozy, comment à 28 ans, il prend la mairie de Neuilly au nez à la barbe de Charles Pasqua. Et notre invité, c'est Laurent Geoffroy, directeur de Libération, notre partenaire.
Eh bien, on vous retrouve dans Affaires Sensibles après les infos. Merci.